Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau rendez-vous de Wagon Livre en ce début d'année 2011. Wagon Livre tous les mercredis soirs à 21h sur votre radio locale, sur Radion ou sur radion.fr, car je rappelle, vous pouvez écouter bien évidemment notre émission en direct via internet, via le site de votre radio locale Radion. Un nouvel invité ce soir à mes côtés, que je vais présenter. Je suis d'autant plus heureux d'enregistrer cette émission avec lui ce soir parce que c'est un ami que je tutoie. Michel Cornillon, bonsoir.
Bonsoir Yannick Petit et bonsoir à Radion et à tous ses auditeurs.
Alors Michel, je suis très heureux de t'accueillir pour parler de ta production littéraire, notamment le roman le plus récent qui t'occupe, dont tu assures un peu la promotion. Et cette année 2011, on espère qu'on va voir fleurir ce roman très particulier, il faut le dire, mais on va y revenir au cours de cette émission. Ce roman a pour titre Auschwitz Carnaval, avec pour sous-titre La vengeance des peuples. On y reviendra d'ici quelques minutes. Michel, permets-moi d'abord de te présenter un peu auprès de nos auditeurs. Ce sont des éléments biographiques que tu m'as confiés. Tu habites à Leuny, qui est un petit village à la limite de la Puisée-Forterre, donc tout près de Toussy. Tu as baigné depuis ton enfance dans une culture humaniste. Ton père d'ailleurs était résistant et il t'a transmis ses valeurs humanistes. Tu te qualifies à l'heure actuelle quand même plutôt comme un homme de gauche. Je n'exagère pas en disant cela.
Absolument pas. Même très à gauche.
Très à gauche. Oui. Et après des études d'architecte que tu n'as pas terminées, Michel, tu as enchaîné les petits boulots avant de devenir chef dans un bureau d'études de menuiserie métallique. Tu as travaillé aussi dans la reliure industrielle à Auxerre, puis un temps dans l'audiovisuel à Paris où tu as été graphiste à ton compte, une expérience qui a quelque peu...
Qui a tourné court, mais toutes mes expériences ont tourné court. Moi, c'est pas gênant, ça. Quand j'intègre un travail, j'en change, parce que ça cesse d'être intéressant.
Alors maintenant, tu es à la retraite, et tu t'adonnes à l'écriture, à la réflexion, l'engagement politique aussi, important.
Depuis que je suis en retraite, je m'adonne à l'écriture, peut-être plus qu'avant, parce qu'avant, j'avais des obligations professionnelles, maintenant, je n'en ai plus, mais ça fait quand même une trentaine d'années que j'écris. Et puis bon, je suis en retraite, mais je suis occupé 24 heures sur 24.
Alors l'écriture a commencé en 78 avec un premier ouvrage que tu fais paraître aux éditions de Chou et qui a pour titre « Le funambule ». Est-ce que tu peux rapidement, brièvement exposer le contenu de ce livre ?
Tout à fait. Le funambule est c'est le roman d'une conquête amoureuse. C'est pas un roman d'amour exactement, parce que l'amour n'est pas là, on est dans la conquête, dans le désir, etc. Et tout est suspendu à dira-t-elle oui, dira-t-elle non, etc. C'est sans cesse reporté. Donc c'est un peu funambulesque pour le personnage principal qui est moi-même, parce que là, c'est le premier roman, il est forcément autobiographique. Après, on évolue, on va voir plus loin, on va voir à côté ce qui se passe. Mais celui-là était autobiographique.
Alors, on va s'arrêter maintenant sur un roman. C'est pas un roman, j'allais dire, c'est un essai. Je ne sais pas comment qualifier ce livre que j'aime beaucoup, qui est un discours aux enfants. Ton discours aux enfants. Alors, ce livre, tu l'as composé en 1994. Je dirais que c'est presque un essai, c'est une réflexion ou alors une sorte de discours d'un homme de la maturité qui, avec son expérience, essaie de dire à la jeunesse « Soyez vigilants, prenez en main le destin de l'humanité. » Est-ce que je me trompe, Michel ?
Non, c'est tout à fait ça. Alors, moi, je ne sais même pas si c'est un essai, si c'est...
C'est un livre de pensée, de réflexion, d'engagement aussi, quelque part.
Je pourrais vous donner une image. Je prends un enfant sur mes genoux, le mien ou un autre, un enfant que j'aime bien, et puis je lui parle, tout simplement. Ça se résume à ça, grosso modo. Alors, je lui parle, de la condition de l'homme sur Terre, au milieu, parce que l'homme est sur Terre au milieu des animaux, et l'homme est un être sexué, je lui parle du sexe, du féminin et du masculin, très brièvement, uniquement pour le mettre dans l'ambiance, et ensuite j'approfondis, je lui parle de la Terre, des problèmes qu'elle a, je lui parle des problèmes qui se posent à l'humanité actuellement, c'est-à-dire la pollution, le pouvoir, l'argent, la guerre. Mais je fais ça de façon non traumatisante, enfin j'espère, de façon douce, et à chaque fois, j'invite les enfants à faire mieux que nous quand ils auront grandi.
Et tu dis, avec ce discours aux enfants, que l'Homo sapiens...
Il arrive au bout du rouleau.
Et enfin, presque mort. Tu appelles de tes voeux une nouvelle humanité.
Voilà, tout à fait.
Prévoyante, respectueuse, et ça, finalement, tu te rapproches un peu de tes idées politiques.
Je suis en train actuellement d'en écrire un autre qui est la suite de celui-là, qui s'adresse aux jeunes gens, aux jeunes hommes, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, en tenant les mêmes propos, mais alors de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus politique, beaucoup plus précise par rapport à notre société actuelle. La société de 2010-2011. Là, je ne fais pas du tout d'allusion aux événements politiques, simplement les grandes lignes dans le discours aux enfants.
Alors Michel, si tu le veux bien, on va marquer une première pause musicale. On reviendra un peu sur le discours aux enfants et bien évidemment, je t'inviterai à nous présenter Auschwitz Carnaval. Rendez-vous d'ici quelques minutes, c'est Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Écoutez Wagon Livre, l'émission littéraire de Radione, tous les mercredis soirs à 21h. Ce soir, notre invité, Michel Cornillon, à l'occasion de son dernier roman intitulé Auschwitz Carnaval, la vengeance des peuples. Avant la pause musicale, Michel, nous parlions d'un livre que tu as écrit en 1994 et qui s'intitulait Le discours aux enfants et aux humains épris de fraternité, tel est le titre intégral de ce livre de réflexion et qui est, à mon avis, le point de départ d'une réflexion politique et d'un engagement politique. Et par exemple, parmi les thèmes que tu abordes le thème de la politique, le thème du pouvoir politique et du pouvoir par l'argent. Alors peut-être vais-je te demander de nous lire un extrait de ce discours aux enfants concernant... Je te laisse situer le passage, Michel,
s'il te plaît. Tout à fait, je compare le monde à une machine un petit peu emballée, à un train, grosso modo un train qui emporte l'humanité. Dans la locomotive se tiennent les rois, les présidents et les milliardaires. Ils voient le danger mais n'ont pas le courage d'appuyer sur le frein, de s'arrêter dans la campagne, de réfléchir un seul instant. D'ailleurs, si l'un d'eux s'avisait de le faire, les autres le jetteraient par la fenêtre. Car ils savent tous que si le train s'arrête, ils n'auront plus le pouvoir. Pendant ce temps, dans les wagons du train, voyage toute une bande de petits singes qui se demandent où ils vont et qui commencent par s'inquiéter car le train va si vite qu'ils n'ont pas le temps de voir les paysages ni de profiter de la vie. Cette bande de petits singes emportés par la course au veau d'or, c'est vous, c'est moi, ce sont vos parents, ce sont tous les hommes de la terre. Cette nuit, j'ai songé à cela et j'ai songé à vous dans les ferrailles tordues. J'en ai très mal dormi, car je tremblais pour vous. Et puis je me suis souvenu d'une phrase. Je ne sais pas qui l'a prononcée, la personne qui me l'a rapportée ne le savait pas non plus. L'argent est le dernier ricanement du singe. Cette phrase signifie qu'en nous s'agite encore le singe, qu'au fond de l'homme ricane le ouistiti. L'homme de notre époque, serviteur de l'argent, n'est pas tout à fait l'homme.
Alors, serviteur de l'argent, est-ce à dire aussi, Michel, que tu invites la jeunesse à se détacher de ce qui malheureusement semble dominer dans la société, c'est-à-dire les préoccupations, je ne sais pas si j'ose dire, bassement matérialistes, parce qu'on est dans une jeunesse qui peut-être manque d'idéal.
Mais nous manquons d'idéal et nous manquons d'autant plus d'idéal que les modèles qu'on nous donne, les modèles qu'on fournit aux jeunes, aux enfants, aux jeunes gens, ce sont des gens qui gagnent des fortunes. L'homme de la rue, on n'en parle pas. L'ouvrier, on n'en parle pas.
Et pourtant, en tout cas, on n'en parle peut-être plus. Il fut un temps dans la littérature, l'ouvrier était mis en scène. Je pense à Zola, par exemple.
Tout à fait.
Balzac montrait les paysans.
Oui.
Aujourd'hui, on n'aime que les stars.
Le néo-réalisme italien, sur le plan du cinéma, montrait des ouvriers. Hein. Mais maintenant, on ne montre plus que des stars, on ne montre plus que des gens souriants qui réussissent, paraît-il, en réalité, ils ne réussissent rien du tout.
Mais sans vouloir être cynique, Michel, tu sais bien que les ouvriers, dans la société, ont tendance à disparaître aussi. C'est une catégorie professionnelle qui est peut-être condamnée à disparaître. C'est pas à toi que je vais apprendre cela.
Non, je sais.
De même que le monde paysan a disparu dans sa forme traditionnelle et caricaturale d'une France paysanne. Aujourd'hui, on est dans une agriculture mécanisée. Les paysans ont disparu au profit de chefs d'exploitation agricole. C'est un peu cela.
Tout à fait. Mais le problème actuel, il est beaucoup plus grave parce que les paysans ont disparu, mais ceux qui ont disparu, ceux qui ont abandonné l'agriculture, se sont retrouvés dans l'industrie ou dans les bureaux, etc. Mais l'industrie a de moins en moins besoin d'ouvriers, les bureaux ont de moins en moins d'employés. Et que va-t-il se passer d'ici 50 ans? D'ici 50 ans, si, à mon avis, il n'y a pas une prise de conscience, mais caractérisée, nous allons au désastre complet.
C'est ce que tu veux, c'est le message que tu veux faire passer dans le discours aux jeunes gens que tu es sur le point de terminer?
C'est tout à fait ça, tout à fait ça. J'analyse tous les problèmes de la société et je pointe du doigt tout ce qui va nous obliger à changer. Sinon, nous aboutissons soit au meilleur des mondes, de Aldous Huxley, soit à 1984 de George Orwell. C'est-à-dire, soit un monde totalement asexué, soit un monde en guerre permanente. En guerre permanente, dit-on, parce qu'on ne sait pas, on n'a aucune preuve. Les fronts se situent dans 1984, loin. Sont loin, on attend ça par la radio, des nouvelles. Voilà, pour moi c'est la grosse angoisse.
Alors on va mettre un terme à cette conversation, en tout cas ces réflexions politiques qu'on pourrait bien évidemment prolonger, mais qui sont, je pense, des interrogations bien légitimes. En revanche, maintenant, interrogation toute légitime aussi, Michel, peut-être pourrait-on pour terminer autour de ce discours aux enfants, j'aimerais que tu nous lises les premières lignes du discours aux enfants, donc un livre que tu as fait paraître en 1994 et qui est un, j'allais dire presque le bréviaire que tout parent peut mettre entre les mains de sa fille ou de son fils pour l'encourager, l'inviter à réfléchir sur sa propre vie et sur celle de l'humanité tout entière. Michel, je te laisse nous lire les premiers paragraphes, les premières lignes du discours aux enfants.
Eh bien, j'y vais. Bonjour. Sur la couverture, je vous ai dessiné tout nu, un petit garçon et une petite fille. Parce que chez les vivants, c'est ainsi. Il y a les vivants garçons et les vivants filles. Même chez les oiseaux, même chez les poissons, même chez les fourmis qui vont à la queue leu-leu en emportant des brindilles. Et même chez les arbres et les plantes, il y a des garçons et des filles, mais on ne le voit pas. Et je vous ai dessiné tout nu parce que quand vous venez au monde, quand vous voyez le jour pour la première fois, vous n'avez pas d'habits. Vous êtes nus comme de petits animaux. Mais la plupart des animaux ont des poils, des plumes, des coquilles d'escargots. Pas vous. Vous, vous êtes humain et vous êtes tout nu. Voilà, c'est ma façon de situer l'être humain dans le monde. L'être humain est quelqu'un de sexué, et l'être humain est... Il est tout nu dans une nature qui fut hostile, qui l'est beaucoup moins maintenant, puisqu'il a développé un tas de techniques, enfin, puis il a développé son confort personnel, etc. Ouais. Ensuite, je démarre dans la réflexion... de quoi est constitué l'être humain, c'est-à-dire d'un corps et puis d'un esprit. Alors là, je parle de l'esprit, puis ensuite je parle de la terre, je parle, etc., ce que je disais tout à l'heure.
Nous aurons bien compris qu'il s'agit d'un livre de réflexion, un livre sur l'identité de l'humanité, un appel à la prise de conscience de soi et des autres, et prise en considération des enjeux futurs qu'il faut bien maîtriser pour permettre la survie de l'humanité et dans un bonheur au moins relatif. C'est un livre qui s'inscrit dans le sillage qui a été déjà dessiné par les philosophes du siècle des Lumières.
Tout à fait.
C'est un livre lumineux à côté duquel, en 2010, l'année dernière, tu as fait paraître Auschwitz Carnaval. On y reviendra dans quelques minutes, après un autre intermède musical. Rendez-vous d'ici quelques minutes avec notre invité, Michel Cornillon. Thank you. Auschwitz, Carnaval, La vengeance des peuples, tel est le dernier roman de Michel Cornillon, notre invité ce soir dans Wagon Livre sur Radion, mais aussi sur radion.fr. Michel, Auschwitz, Carnaval, voilà un roman au titre pour le moins surprenant. Je vais te demander dans un premier temps de nous expliquer dans quel contexte, pour quelles raisons tu as choisi de revenir sur une page tragique de l'histoire de l'humanité à travers, bien évidemment, le dramatique génocide du peuple juif, plus de 6 millions de personnes massacrées, détruites physiquement à l'échelle industrielle.
L'horreur la plus totale.
Pourquoi être revenu sur cette page de l'histoire ?
Alors, tu parlais de choisir ce sujet. Je ne l'ai pas choisi, le sujet s'est imposé à moi. Et de façon tout à fait rocambolesque. Je me promenais dans la campagne, je me suis retrouvé devant un petit paysage, oui, que j'adore énormément, c'est tout près d'ici, un paysage bucolique.
À Leuny, dans ton village ?
Tout près de Leuny, tout près, entre Leuny et Toussy. Et j'avais l'habitude de venir là pour, disons, pour m'apaiser l'esprit en me promenant. Et ce jour-là, j'arrive et que vois-je, horreur, des containers à poubelles juste devant le paysage bucolique. Et comme le chemin était en pente, la dalle de soutien de ces containers était elle-même en pente. Du coup, les containers étaient de biais. Enfin, c'était un spectacle absolument lamentable. Et d'autant plus que la municipalité avait installé ce bric-à-brac juste devant la maison d'un artiste. Alors je me suis dit, là, ça va exploser, et parce que moi j'explosais déjà.
Tu es né en colère.
Je suis né en colère, et cette vision de ces trois poubelles, de ces trois containers, a fait renaître toutes mes colères anciennes. Alors j'ai commencé à écrire à la municipalité, dans ma tête, j'ai commencé à écrire à la municipalité, puis je me suis dit, la municipalité, ça vaut pas le coup, je vais écrire à Jean-Pierre Soisson, notre député, et puis je vais écrire au ministre, et puis je vais écrire à Chirac, et puis ça bouillonnait tellement dans ma tête, je vais écrire à Hitler, mais non, Hitler, c'est pas possible, Hitler, je vais écrire sur Hitler. Et je vais décharger toute ma haine sur les nazis et sur Hitler, c'est comme ça qu'est né ce bouquin.
Donc en fait, c'est quelque part le rappel de l'ordure, du déchet qui t'a ramené à...
Du déchet mal placé, du déchet placé devant la beauté. Et ça, c'était insupportable, parce que ça, c'était le résultat de la bêtise humaine. L'homme a... Les paysans ont modelé le paysage au cours des siècles. Et là, on était arrivé à une prairie avec des arbres, et puis un petit ruisseau en bas, et puis des bovins en train de paître tranquillement, et puis il faisait beau, et puis c'était vert, c'était magnifique. Et des poubelles là-devant. Mais c'était l'horreur. Et l'horreur m'a ramené à Auschwitz, qui est l'horreur pour moi, la plus gigantesque qu'on puisse imaginer. Bon, il y en a eu d'autres, mais celle-là est particulièrement effroyable.
Alors, je disais dans l'introduction à notre entretien que ton père avait rejoint la résistance pendant l'occupation, mais tu n'as pas de membres de ta famille qui aient été emprisonnés, maltraités ou qui aient été massacrés en camp de concentration. Il n'y a pas, on peut dire, de remonter à la surface d'une atrocité.
Tu parles de remonter au premier degré. Non, il n'y a pas de remonter au premier degré. Bon, quand j'étais plus jeune, je ne sais pas, vers 18 ans, j'ai lu un bouquin qui m'a marqué, c'était Treblinka. Treblinka, c'était le titre du bouquin, et c'était l'histoire du camp de Treblinka, où il y a eu une révolte. C'était épouvantable. Mais moi, je découvrais ça. Mon père parlait, mais là, c'était décrit de façon sanglante. C'était horrible. C'était horrible. Et ça m'a fait bouillir, ça m'a mis dans une colère froide contre CSS. Je dis une colère froide, c'est même une colère chaude, parce que ce que j'exprime dans Auschwitz Carnaval.
Alors, Auschwitz Carnaval, sous-titré La vengeance des peuples, c'est le titre donc, je le répète assez, mais c'est le titre de ton dernier roman, et je vais te demander, Michel, de nous en lire les premiers paragraphes, les premières lignes. Tu veux... Oui, je te laisse le soin
je
de...
Veux bien, oui.
S'il te plaît,
pour les premières.
Les premières, s'il te plaît. Nous t'écoutons.
Bouclé dans des wagons de bois, comme je vous l'ai dit, un entassement de vos semblables, avec femelles et baluchons, progéniture et gémissements, autant dire du bétail. Et parmi cette cohorte humiliée et puante à souhait, mon cousin Mordécaï, 20 ans, et moi-même, Yitzhak, pour vous servir. arborant l'un et l'autre, en plus de la fameuse étoile et d'une stupéfaction sans bornes, de tristes sourires accompagnés dans nos caboches en ruine d'un ressassement de pensées qui ne menait nulle part.
Alors, l'intrigue. L'intrigue, c'est l'histoire de deux cousins juifs, Mordecai et Yitzhak, c'est le narrateur, Yitzhak. Ce sont des jeunes gens d'une vingtaine d'années. Bon, ils ont été arrêtés parce qu'ils faisaient les poches du manteau d'un officier allemand. Et ils se retrouvent déportés en septembre 1944 à Auschwitz-Birkenau, tristement célèbre. Et, renversement de situation, ils réussissent ingénieusement à prendre en main la direction du camp, puisqu'ils ont fait prisonnier le commandant du camp. Et alors là, la vengeance des peuples se met en route. Eux, les victimes, vont faire payer, si je peux me permettre cette expression.
Ils
vont
prix fort.
Au prix voire très fort. C'est très de œil pour œil, dent pour dent. Hein, c'est la loi du talion. Les victimes vont faire périr leur bourreau. On peut dire que là, tu as décrit la vengeance des Juifs avec tous leurs camarades d'infortune. Tu décris leur vengeance de manière très, très crue et parfois très, très violente.
C'est cru, c'est violent, en effet, mais la cruauté et la violence provenaient d'abord du système nazi.
Certes.
Mes deux Juifs, Yitzhak et Mordecai, arrivent donc au camp d'Auschwitz, fin septembre 1944, aux alentours de minuit, en pleine nuit. Et là, ils arrivent à s'échapper à l'intérieur du camp. Donc les SS les pourchassent, les projecteurs se braquent sur eux, mais enfin c'est une pagaille noire, parce que ça s'est jamais vu dans un camp, une affaire pareille. Ça tiraille dans tous les sens, enfin nos deux Juifs arrivent à se cacher sous une cabane, et puis à tuer deux SS qui passaient par là. Ils revêtent leurs uniformes, ils s'emparent de leurs armes, de leurs papiers, de leurs décorations, etc. Et ils vont allègrement à la commandanture. Ils pénètrent dans le bureau du chef, du commandant du camp, Rudolf Höss, au moment où sa femme et sa fille arrivent, sa petite fille qui doit avoir 4-5 ans. Et ils prennent la femme et la fille en otage. Armés de ces deux otages, ils tiennent totalement le commandant. Et ils vont se faire passer donc pour de véritables SS. C'était pas trop difficile parce qu'il y avait des SS turcs, il y avait des SS roumains, il y avait des SS, même des SS juifs, paraît-il. Bon, eux, on ne sait pas trop qui ils sont, mais enfin, ils se débrouillent du quotidien, ils se débrouillent. Et alors, ils vont faire payer les SS très très cher. Mais ils vont pas les faire payer en aveugle, ils vont les faire payer en leur disant pourquoi ils les assassinent. En les mettant au pied du mur, c'est-à-dire au pied de Dieu. À un moment, il y en a un qui est en train d'un SS, qui est en train de rendre l'âme, et d'un seul coup, il se remémore Dieu, dont il se souvenait à peine, et il se dit que là, vraiment, ça va mal. Bon, je me marre, mais parce que je me suis marré en écrivant ce bouquin.
Oui, c'est ça qui est paradoxal, Michel, parce que lorsque j'ai lu ton roman, en juillet 2010, j'ai été très surpris. Je n'avais jamais lu des pages aussi violentes. Et il y a un mélange de grotesque et de tragique. On peut dire que tu as créé un texte, j'aime bien cet adjectif, qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, monstrueux. Quelque chose où le rire, l'horreur se mélangent, et c'est peut-être le sens de ce mot carnaval. Et j'aimerais que tu expliques le sens du titre, parce que tu associes Auschwitz carnaval, tu peux choquer avec un titre pareil.
Tout à fait. Le terme de carnaval, que j'écris avec un K à l'allemande, m'est venu presque immédiatement. À partir du moment où les deux Juifs se déguisent, on est déjà dans le carnaval.
Tout à fait, c'est lié au travestissement, porté les uniformes des nazis, alors qu'ils étaient, on les imagine, dans leur uniforme de déportés, avec leur costume rayé.
Ils ne l'étaient même pas, parce qu'ils sont passés directement de la ville au statut de SS. Ils sont passés de leur loque de prisonniers qui ont fait 5 jours de voyage en train dans des conditions épouvantables. Donc ils sont totalement en loc. Et puis, d'un seul coup, ils passent au statut de SS avec uniforme. Donc c'est extrêmement rapide. Ils ne connaissent pas l'uniforme, enfin la tenue de bagnard des déportés, là. Et puis, bon, le carnaval, il s'est amplifié. Cette idée du carnaval qui m'a poursuivi tout au long du bouquin, elle s'est petit à petit développée. Il y a énormément de scènes où tout est inversé. Parce que dans un carnaval, qu'est-ce qu'on fait ? On place les puissants sur les chars, on place leur caricature sur des chars et on se moque d'eux. À la fin, on y met le feu.
Oui, c'est une inversion des valeurs. Au Moyen-Âge, le carnaval, les bouffons deviennent rois et les rois deviennent bouffons. On inverse socialement les rôles. Chez Rabelais, on le voit notamment aussi, et c'est source de rire et de franche rigolade.
Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé là, moi.
Mais tu as quand même, pardonne-moi Michel, c'est aussi pour que notre propos soit clairement saisi par les auditrices et auditeurs de Radion, tu as une véritable audace.
Je crois que j'ai une audace, j'ai une audace littéraire.
Iconoclaste.
Je suis iconoclaste.
Et le revendiques.
Ah ben tout à fait. Je situe ce roman entre Sade et Céline. Ça peut paraître complètement fou, mais Sade qui a poussé le bouchon vraiment très loin, au maximum de ce qui était acceptable pour un créateur. Il pouvait difficilement aller plus loin. Céline a fait un peu la même chose, dans un tout autre style, dans un tout autre registre. Et puis moi, je fais la même chose dans mon registre.
Mais ton narrateur est parfois gêné quand même des confessions, de ces exactions horribles sur leur bourreau. Je cite ce que tu fais dire à ton jeune juif. « J'avoue éprouver de la gêne à décrire, même 50 ans après, à des années-lumière du contexte d'alors, les indécences auxquelles nous nous livrâmes sur cette femelle à chier, cette souillon d'une époque révolue. » Ça, c'est ce que tu écris, page 193.
C'est précis.
C'est précis. Ton narrateur a conscience quand même qu'ils ont, au nom alors de la vengeance des peuples, on y reviendra, commis des choses hideuses, de même que leurs bourreaux leur ont infligé des choses atroces.
D'autant plus que là, dans la scène dont tu viens de faire, à laquelle tu viens de faire allusion, il s'agit de détruire les chiennes de Ravensbrück qui sont des SS femelles qui sont venues à Auschwitz pour soi-disant rétablir l'ordre dans le foutoir du camp. Bon. Et elles ont assassiné, mais de façon extrêmement sauvage, 40 prisonnières françaises. Et ça, c'est un massacre qui a eu lieu au camp de Budi. Budi étant une annexe du camp d'Auschwitz, on envoyait des commandos casser des cailloux, enfin faire n'importe quoi, pour les épuiser et puis les amener au seuil de la mort.
Et les humilier.
Et les humilier. Il y avait absolument tout. Et donc je décris le massacre, mais non pas le massacre des Françaises par les SS femelles, mais moi je décris le massacre des SS femelles par les deux juifs et leurs amis.
Alors qu'ils leur font subir
c'est effroyable.
Des choses épouvantables.
C'est effroyable. Et là, je crois que Yitzhak n'ose pas en parler parce que ça bascule un peu dans un côté sexuel en même temps.
Un véritable sadisme.
C'est un sadisme totalement déchaîné, libéré. Libéré, pas complètement, puisqu'il en a honte. Et là, alors, quand j'ai écrit cette scène-là, je n'ai pas ri. Celle-là m'a pris aux tripes, vraiment. J'avais à peine commencé à écrire ce livre que j'avais terminé le premier jet quand est arrivé le 40e anniversaire, je crois, de la libération d'Auschwitz, ou le 60e anniversaire. Le 60e, 2005, oui, 60e. 45-2005, c'est le 60e. Et là, il y a eu des tas de reportages.
Oui.
On a interviewé d'anciens détenus qui racontaient des choses épouvantables. À un moment, on a interviewé, je me souviens, on a interviewé un très vieux juif qui avait survécu à tout ça et qui avait été rapatrié en France, qui avait traversé Berlin en ruine. Moi, j'ai connu Berlin en ruine, j'avais 10 ans, j'allais dans un camp de vacances là-bas. C'était hallucinant comme spectacle, c'était tout à fait hallucinant. Et alors, l'intervieweur a demandé à ce vieux juif quelle avait été sa réaction. Alors il est resté silencieux quelques secondes et puis s'est dit, mais vous savez, intérieurement, on jubilait. Et j'ai voulu exprimer la joie de celui qui massacre son bourreau, qui se délivre de ça. Cette même joie qu'a exprimé ce vieux juif quand il a parlé de sa réaction à lui devant les ruines de Berlin. Et ça m'a rappelé en même temps une interview d'une Rwandaise dont toute la famille avait été massacrée par ses voisins et qui disait que maintenant elle vit au milieu de ses mêmes voisins, Hutus, qui avaient massacré sa famille. Alors ils ne se parlaient pas, évidemment, on sentait du plomb sur ce pays, un silence de plomb, des non-aveux en fait. Et puis elle disait à un moment, mais vous vous rendez compte, il y a des Hutus qui sont en prison, qui ont massacré des gens, qui ont organisé les massacres. Ils sont en prison, ils sont bien nourris, on ne leur fait pas de mal, ils sont soignés alors que nous on n'a plus rien et que nous ne pouvons même pas nous venger. Et là je me suis dit, la vengeance, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Alors on reparlera de la vengeance et de la justice, Michel, après une petite pause musicale et on reviendra sur ces thèmes. Bonjour dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio Anne ce soir, avec notre invité Michel Cornillon. Il est l'auteur d'un roman qui a pour titre Auschwitz Carnaval, la vengeance des peuples. Michel Cornillon, revenons sur cette vengeance des peuples, qui est donc le sous-titre du livre. Est-ce que nos deux jeunes juifs, avec leurs compagnons d'infortune, qui donc ont réussi à prendre le pouvoir dans ce camp, ont-ils le droit de se faire eux-mêmes, j'allais dire, justice, de se venger de leur bourreau? Ont-ils le droit de se venger de leur bourreau?
Alors, se venger, tout à fait. Faire justice, étant donné qu'à Auschwitz, il n'y avait pas de justice, il n'y avait plus aucune des valeurs humaines à Auschwitz. Il s'agissait de détruire un peuple, alors on y allait. Je ne sais pas comment, dans quel esprit y allaient les nazis, mais eux, les deux juifs et leurs comparses, parce qu'ils se sont fait des amis en cours de route, se vengeaient avec joie, presque avec joie. Ils y allaient de bille en tête, absolument. Ils ne se posaient pas de questions. Ils cognaient, ils détruisaient. Ils détruisaient le mal. Et quand on détruit le mal, étant donné que le mal est hors toute justice, il n'y a pas à se poser de questions de droit ou de pas droit, on y va.
Par conséquent, peut-on dire que vengeance et justice, dans ton roman, Michel, sont des termes synonymes? La justice,
oui,
elle ne peut se faire que par les procès de Nuremberg en 1945-1946, lorsque la guerre est finie.
Une fois la guerre finie, on analyse ce qui s'est passé, mais quand la guerre n'est pas finie, on n'a pas le temps d'analyser, on agit, c'est la vengeance.
Alors, il est vrai que nos deux héros se vengent et se constituent en tribunal des peuples, et même en tribunal de la vengeance des peuples. Hein, les expressions reviennent souvent sous ta plume. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des nazis. Les nazis ne sont plus des hommes dans ce roman, puisque... Tu le soulignes, on revient parfois à un certain âge de pierre, à un état, c'est-à-dire l'état de nature, c'est très rousseauiste, un état où en tout cas il n'y a aucune loi, où règne la cruauté, la sauvagerie la plus épouvantable.
Les nazis ne sont plus des hommes, et moi je les compare même à des mécaniques.
Oui.
Qui vont déboulonner, qui vont, je ne sais plus qui se fait assassiner par mes juifs... il a un cardan qui est déboîté, il a des fusibles qui ont sauté. Enfin, alors, c'est une mécanique, on y va, on l'a des os.
Alors, les nazis ne sont plus des hommes. Question, Michel, à quel moment redeviennent-ils humains?
Ils reviennent humains...
À quel moment un nazi, à quel moment un bourreau hitlérien retrouve-t-il un semblant d'humanité, à supposer qu'il redevienne sincèrement humain?
Un nazi est un homme tant que la guerre n'a pas éclaté, tant qu'il ne se livre pas aux exactions qu'on connaît. À partir du moment où il entre en guerre, il laisse son humanité au vestiaire. Donc, c'est plus un homme. Le temps de la guerre, le temps des exactions, c'est plus un homme, c'est une machine à tuer, point final. Alors, il retrouve son humanité, je mettrai humanité entre guillemets, à la fin de la guerre. Quand il se retrouve devant ses juges officiels, à Nuremberg par exemple, ben forcément c'est un homme, mais c'est un homme qui triche avec l'humanité. Pour moi, je dirais que c'est un homme dévoyé. Je ne vais pas dire un sous-homme parce que ce terme, lui, il est approprié au possible, un homme dévoyé. C'est-à-dire un homme qui s'est livré à de telles exactions, qui a tué des hommes, qui a tué des femmes, qui a tué des enfants.
Et des vieillards.
Et des vieillards, mais... Les enfants, c'est pire que tout. Bon, on réfère aux discours enfants. J'ai entendu, je crois que c'est Elie Wiesel, raconter. Ben, c'était pendant le 60e anniversaire d'Auschwitz. Il a vu à Auschwitz un camion bénir des enfants dans des fosses d'incinération. C'est-à-dire des fosses dans lesquelles il y avait du feu. On bénit des enfants vivants. Pour pas qu'ils échappent, on leur avait cassé une patte avant. Voilà. Une crosse, on lui cassait la patte. Des petits mômes, 5-6 ans, vifs dans le feu.
Et alors, les deux cousins juifs, Mordecai et Yitzhak, le narrateur, ne perdent-ils pas une part de leur humanité? Certes, ils l'ont perdue en étant prisonniers des nazis dans le camp, mais ayant recouvré une certaine liberté, n'ont-ils pas perdu aussi une part de leur humanité en s'adonnant à des exactions et à des abominations sur leur bourreau.
Mais dans le camp, ils n'ont pas perdu leur humanité parce qu'ils sont conscients de ce qui se passe, ils sont conscients que ce monde nazi est un monde totalement inhumain, et quand ils tuent un nazi, ils essaient de le remettre devant son humanité au moment où il va mourir. Devant son humanité ou devant Dieu, bon, comme je disais tout à l'heure. Donc ils ne cessent jamais d'être humains, ils assument, ils restent verticaux, je crois que j'emploie ce terme, ils restent verticaux, ils restent des hommes, même au pire moment de férocité. Par exemple, pendant le carnaval, ils vont les dépiauter, ils vont leur tirer dessus en pensée. Les Juifs vont démolir les nazis à coups de mitraillette, tout en restant humains, tout en restant des hommes. Ils assument leur vengeance. Et à la fin du roman, quand ils se retrouvent devant le Reichstag en flammes à Berlin, au milieu des ruines épouvantables, ils commencent par rire parce qu'ils sont libres, ça y est, enfin la bête agonise. Et puis d'un seul coup, ils se mettent à pleurer. Et je crois que ce sont ces larmes qui les sauvent, qui les lavent de toutes des horreurs qu'ils ont vues, des horreurs auxquelles ils ont assisté, des horreurs qu'ils ont subies et des horreurs surtout qu'ils ont fait subir aux nazis.
Serions pas complets, Michel Cornillon, si on ne soulignait pas qu'il y a des scènes grotesques, drôles, qui nous mettent mal à l'aise. Évidemment, au milieu de ces boucheries, au milieu de ces abominations, il y a des scènes grotesques. Et je souhaiterais, Michel, que tu, justement, pour illustrer ce que je viens de dire, que tu nous lises quelques passages de scènes drôles, et qui nous mettent mal à l'aise, peut-être l'épisode où... Je ne sais pas, Michel, je te laisse le choix.
Eh bien, je vais prendre un passage où je mets en scène le Himmler, le Reichsführer, qui a visité le camp, et puis qui s'attarde devant un hublot d'une chambre à gaz où on est en train d'opérer. Bien sûr, de faire périr des juifs qui viennent de Céphalonie, puis qui attendent là. Le Reichsführer se serait bien attardé à ce spectacle rare, mais il en détourna la pression de ses gaz. À peine eut-il le temps de regagner sa limousine, d'ordonner au chauffeur, lui-même au bord de l'explosion, un démarrage en trombe. Les archives de l'Empire ne donnent aucun détail sur le retour de Chochotte à Berlin, mais de nombreux témoins rapporte qu'une longue limousine encadrée de caisses décapotées brinque-ballées du Totenkopf devait s'immobiliser tous les 3 kilomètres. Une silhouette en jaillissait, qui se précipitait vers les buissons et s'y accroupissait pendant que son escorte, composée d'officiers l'arme au poing, l'œil réduit à une fente et le manteau ouvert, se regroupait autour d'elle afin de la protéger des regards. Pendant ce temps, installée au bureau de Mengele, une canule à la main, un pot de chambre à sa droite et un étron à gauche, Treblinka exultait. Treblinka, c'est un médecin juif qui a remplacé le docteur Mengele. Suite à de patientes recherches, il pouvait à présent activer répandre et contrôler le virus de la chiasse. Virus qu'il venait de lâcher par le moyen des sauces sur les dandies du staff.
Et donc on verra les prisonniers parfois découvrir des excréments des nazis.
Ah ben...
Et en fonction de la forme des excréments au sol, donc ils sont tordus de rire. Donc ça, c'est le grotesque, effectivement. Un autre passage, Michel, s'il
plus
te plaît.
Qu'une déroute, c'est un naufrage qui s'annonçait. Le drame du Titanic à l'échelle d'une nation. L'iceberg stalinien décroché de sa banquise pour débarquer en pleine défécation. Créer dans les bureaux, les officines et les dépôts une panique dont on n'a pas idée. Et les nazis le savaient, qui transformaient Auschwitz en un champ d'épandage où ils risquaient à tout moment de se ramasser devant des détenus hilares, leur latrine accessible au sol SS dotée d'un atome de bon sens. Plutôt que de s'y précipiter les mains vides, auquel cas le guignol de service se montrait intraitable qu'à claquer la porte et les envoyer paître, ces derniers, s'ils désiraient le trône en cette veille de Noël, devaient distribuer à la ronde queue de langouste et pelletée de foie gras. C'est le prix à payer pour les installer sur le trône.
Et alors il y a des scènes formidablement bien écrites sous ta plume, Michel. C'est celle où nos deux jeunes juifs avec leurs compagnons arrivent dans un Berlin qui est sur le point de tomber entre les mains des soviétiques. Et là, par exemple, tu racontes que sur le capot de la Jeep de nos amis, un singe qui s'est échappé du zoo de Berlin a sur la tête un casque de soldat allemand et défèque sur le capot de la voiture. C'est assez drôle aussi. Tu veux peut-être nous en donner
Je ne sais pas si je vais trouver celui-ci, mais bon, on va trouver un autre qui se rapporte au même set. Ceci dit, ils ne sont pas dans une Jeep. Ils sont, je crois, dans une Daimler ou une limousine énorme qu'ils ont raflée dans les sous-sols abandonnés de la famille von Oppel et Eichbach, je crois, partis se faire pendre ailleurs. Donc ils ont pris la limousine et puis ils se dirigent vers le bunker du Führer à travers les ruines de Berlin et ils aboutissent dans le Tiergarten, c'est-à-dire le zoo de Berlin, qui est totalement détruit comme le reste, mais enfin les animaux sont partis en liberté, enfin c'est une pagaille noire. Les seules clartés, au long de rue qu'on utilise Guernica, tant les moitiés de poussettes faisaient écho au hurlement des mères, eh bien les seuls sourires, les seules lueurs d'espoir dont put encore s'illuminer la vie, émanaient des panzers à pédales. Rien n'arrêtait leur jeu, les enfants guerroyaient pendant que leur génitrice en loque, épouse des seigneurs du désastre, se chamaillait pour un trognon moisi, un rogaton pourri à protéger d'animaux affamés montés de la noirceur du monde. Quant aux chiens, aux chats et autres animaux d'une époque révolue, ils avaient depuis longtemps disparu dans de tristes ragoûts. Restaient à peine quelques autruches traquées dans les bosquets et les allées du zoo, dans les jardins de la chancellerie, jusque dans les bassins où se disputaient crocodiles et pitons. Qu'il était beau, le brigade Führer décapité par la mitraille, alors qu'il faisait le dos rond derrière l'hippopotame. Et celui-là lancé à la poursuite d'un gnou fuyant la cuisine désarmée. Et pan dans la bouse d'éléphant, l'Oberofficier Schwarzerhoff. Et paf dans le pissou de rhinocéros, le caporal Spiedel, venu lui porter secours. Et ouïouïouï, un pied emporté par un tigre, le Feldmarschall qui n'ira pas plus loin. Et aïe aïe aïe, l'oberst qui fléchit et s'écroule, tandis qu'un ventour vient se poser sur une branche, l'observe d'un œil rond avant de lui chier dessus.
Merci Michel Cornillon. C'était le 11e numéro de Wagon Livre, consacré ce soir au dernier roman de notre invité, Auschwitz Carnaval, la vengeance des peuples, signé Michel Cornillon. On peut se procurer ce livre dans toutes les librairies de Lyon, notamment à la librairie Joffac à Toussy, les librairies Oblique et Odyssée à Auxerre, ou auprès de l'auteur en faisant la demande par courriel à l'adresse électronique suivante michelcornillon@orange.fr, ou alors vous écrivez à Michel Cornillon au 2 rue de Fontenoy, 89130 Leuny. N'hésitez pas à aller consulter le blog de Michel Cornillon à l'adresse suivante http://www.orange.fr. chronique.canalblog.com/. Retrouvez ces informations dans quelques jours sur le site de Radion, en même temps que le podcast de l'émission de ce soir. Notez dès à présent la conférence que donnera l'historien Gilles Platret le vendredi 28 janvier prochain à 20h à la ferme de la Fosse d'Yonne à Tonnerre. Gilles Platret parlera des loups dans l'histoire de la Bourgogne. C'est aussi le titre d'un livre de cet historien, livre dont on aura l'occasion de parler cette année dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Pour ma part, je vous retrouve mercredi prochain avec un nouvel invité, Pierre Basset, historien amateur, pour tourner ensemble les pages de l'histoire de la Troisième République. C'est mercredi prochain à 21h, toujours sur votre radio locale. Merci de votre fidélité, bonne fin de soirée en musique, à l'écoute de Radion, au revoir.